Des rencontres particulières, des personnalités étonnantes, des vies insolites. Bonjour, c'est Guillaume, vous êtes sur Radio Escapade. Nous ne pouvons devenir nous-mêmes qu'en sortant de nous-mêmes. C'est le sens de cette nouvelle émission. Partager l'histoire d'hommes et de femmes qui se cherchent dans ce siècle où tout semble possible. Notre invité d'aujourd'hui nous emmène au Chili, plus particulièrement à Concepción, cité balnéaire et universitaire du centre du pays. C'est là, durant nos vacances de février, que j'ai rencontré Juliette, 19 ans, étudiante française, qui a vécu aussi à Saint-Hippolyte. Juliette, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Alors, on va d'abord dire quelques mots sur le paysage qui est face à nous. Nous sommes sur une terrasse, nous surplombons l'océan Pacifique. En bas de nous, les vagues se jettent sur les rochers. Évidemment, c'est l'hiver en France, mais c'est l'été ici dans l'hémisphère sud. Un paysage assez paradisiaque. Alors, dites-nous, de Saint-Hippolyte au Chili, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ce sera ma première question par rapport à votre parcours.
Eh bien, j'ai fait mon école maternelle et le début de l'école primaire à Saint-Hippolyte-du-Fort. Et on a ensuite déménagé à Montpellier, donc la grande ville. Et j'ai fait mon collège, puis mon lycée. Au lycée Jules Guettes, c'est un lycée international où il y avait beaucoup d'échanges pour partir à l'étranger. Malheureusement, je suis tombée les années Covid, donc je n'ai pas pu. Et puis ensuite, donc j'ai passé le bac, voilà. Et ensuite, je suis allée à Sciences Po Grenoble. J'ai été prise à Sciences Po Grenoble via Parcoursup. Et puis, donc la première année à Grenoble et la deuxième année obligatoirement à l'étranger. Une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai choisi Sciences Po, c'est parce qu'il y a une année à l'étranger, notamment à Sciences Po Grenoble, c'est la deuxième année. Et j'ai choisi le Chili. Et donc, me voilà au Chili 10 ans plus tard.
Alors, pourquoi avoir choisi ce pays-ci, en particulier parmi, j'imagine, toutes les possibilités et les partenariats de Sciences Po ?
Alors oui, le choix était énorme. Il y avait à peu près le monde entier, de l'Asie à l'Australie, à l'Amérique du Nord, toute l'Europe. Alors, ça n'avait pas vraiment rêvé dit comme ça, mais en fait, parce que je voulais aller en Uruguay. Enfin, je voulais aller en Amérique latine parce que je voulais parler espagnol et que je voulais partir de l'Europe parce que c'était une opportunité de pouvoir partir quelque part loin. Et je voulais prendre cette opportunité et en profiter vraiment pour partir, quoi. Donc ne pas rester en Europe. Sauf qu'en fait, en Amérique latine, il faut le niveau... Enfin, dans beaucoup de pays en Amérique latine, les universités partenaires demandent le niveau B2 en espagnol, ce que je n'avais pas. J'avais que le niveau B1. Et donc, il y avait... Donc, les seuls pays en Amérique latine qui acceptaient le niveau B1, c'était la Colombie, donc Bogota et Concepción au Chili. Et donc mon premier vœu, c'était Concepción au Chili et puis ensuite Bogota. Et j'ai été prise sur mon premier vœu et donc je suis partie au Chili.
Alors on rappellera pour les auditeurs, les niveaux de langue B1, B2 correspondent à un niveau européen, donc de maîtrise évidemment des langues vivantes. B1 est déjà un niveau de fin de lycée, de début d'université tout à fait correct. Mais peut quand même signaler, vous n'étiez pas hispanisant, vous n'êtes pas hispanique d'origine.
Ah non, je crois que j'ai 100% d'origine française et je parlais très très mal, j'avais très peu confiance en mon espagnol, mais c'est pour ça que je voulais partir, en fait c'était pour améliorer mon espagnol. C'est marrant parce que dès que je suis arrivée ici, dans l'avion j'ai rencontré une chilienne et ensuite dans le bus et tout de suite... J'ai su aligner des mots en espagnol et formuler des phrases. Et les deux filles que j'ai rencontrées, d'ailleurs, m'ont dit « Mais ça va, tu parles pas trop mal espagnol. » Alors qu'en cours, je n'arrivais pas à formuler une phrase en espagnol. Et donc, en fait, tout de suite, je sais pas, l'espagnol est sorti. Et après, bien sûr, c'était un peu compliqué. Il fallait s'habituer à la langue, à l'accent des Chiliens, aux mots qu'ils ont, qui leur sont propres. Mais finalement, ça s'est fait plus facilement que ce que je pensais. Après, les cours étaient en espagnol. Et on parle espagnol tout le temps, en fait. Je parle pratiquement pas anglais. Donc bah forcément ça va vite, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Même s'il y a eu un moment quand même où ça a été un peu plus compliqué, où on rame un peu, mais bon, ça se fait.
On y reviendra notamment sur le parcours universitaire. Je voudrais revenir un petit peu en arrière, si vous voulez bien, concernant la préparation de ce voyage. On rappelle que ce n'est pas un voyage organisé, que vous êtes partie toute seule, vous êtes arrivée toute seule au Chili. Alors comment on appréhende l'organisation, comment on se renseigne, et puis quand vous êtes arrivé, comment s'est passée finalement votre installation et votre arrivée donc à Concepción?
Oui, c'est vrai que en fait c'est un échange où les étudiants partent tout seuls, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on va pas dans une famille. L'université, elle nous donne la correspondance avec l'université, et après, enfin Sciences Po pardon, nous donne la correspondance avec l'université où on va aller, et après enfin on se démerde pour dire ça comme ça. Et donc en fait ça passe beaucoup par en fait par les réseaux sociaux, parce que et par de bouche à oreille en fait, parce que donc moi j'ai été mise en contact avec la fille de Sciences Po qui était donc l'année dernière. Donc quand j'ai été prise en février, elle était au Chili à Concepción, et donc on a parlé, et ensuite elle m'a mis en contact sur un groupe sur WhatsApp avec des gens qui expliquaient toutes les démarches pour le visa, pour les numéros de téléphone, pour quand on va arriver au Chili, pour toutes les questions pratiques. C'était vraiment sur un groupe sur WhatsApp, et par cette fille donc, qui s'appelait d'ailleurs aussi Juliette, qui m'a donné tous les tips, tout, voilà, comment faire pour le visa, pour machin et tout. Et
j'ai une question, on rentre facilement en contact, on est facilement admis dans ces groupes de
parole? Ah oui, parce que bah, déjà la fille donc Sciences Po, oui, parce qu'en fait elle savait que c'était difficile, mais et ensuite donc elle m'a donné le contact. En fait c'est une Française qui vit au Chili depuis 10 ans et sur WhatsApp qui a un groupe avec que des Français, et en fait enfin on peut pas ne pas être admis, et il y a vraiment une communauté en fait. Le groupe d'ailleurs s'appelle Les Français au Chili, et sur Facebook aussi il y a un groupe qui s'appelle Les Français au Chili, et c'est vraiment une communauté des Français qui s'entraident, qui disent leur expérience si on veut partir en voyage, ou leurs problèmes pour les visas, etc.
Alors sans vouloir jouer les vieux un peu en dehors du coup, c'est quand même un bel exemple de la capacité des réseaux sociaux finalement à être très très utile.
Oui.
pour s'organiser. Et c'est effectivement ensuite votre génération. Et alors il y a eu le moment du départ et l'arrivée donc au Chili. Alors combien de temps de vol d'abord?
Alors moi j'ai fait Montpellier-Paris, Paris-Santiago en avion, et ensuite Santiago-Concepción en bus. Donc il y a de Paris à Santiago il y a 14 heures d'avion, et ensuite il y a 6 heures de bus de Santiago à Concepción, et donc j'ai pleuré dans l'avion pour y aller, et j'ai pleuré quand on est parti, j'ai pleuré quand on est arrivé, et j'ai dormi tout le long, et ensuite bah, une fois qu'on y est, en fait une fois qu'on y est tout seul au bout du monde avec son sac à dos, sa valise, et qu'on se rend compte que bah, que là on est un peu dans la merde, enfin que
on a pas le choix,
on n'a pas le choix. Donc on est obligé de se débrouiller, on est obligé de... Bon, après c'était préparé, je savais exactement quel bus j'allais prendre, comment j'allais y aller, etc. Je m'étais vraiment bien préparée, mais c'est vrai que quand on arrive là, ça fait bizarre.
Vous arrivez dans un aéroport international, j'imagine que ça grouille, ça oui. Parle espagnol, et puis on ne connaît pas forcément les codes. Voilà, ça a été un moment un petit peu compliqué.
Je dirais pas compliqué, un peu stressant, parce que je savais pas trop où aller, je savais pas trop quoi faire, et puis en plus il était 7h, parce que j'avais pris un vol de nuit, donc je suis arrivée à 7h du matin, et je me souviens de la sensation quand j'ai ouvert les yeux, que l'avion nous disait qu'on allait bientôt atterrir, le soleil levant sur la cordillère des Andes, c'était très impressionnant. Donc là je me suis dit, bon bah ça y est, je suis arrivée quoi, et ensuite en fait j'ai rencontré deux Français, parce qu'en fait c'était un vol Air France, donc il y avait beaucoup de Français, et donc là bah, on s'est passé donc encore une fois nos Instagram pour rester un peu en contact et tout, mais après on n'allait pas au même endroit, donc on a juste passé la douane et récupéré nos valises ensemble, et après bah, j'ai pris une navette pour aller au terminal de bus, j'ai acheté mon ticket de bus, j'ai attendu mon bus, j'ai pris le bus. Et
c'est quand même courageux, enfin je veux dire voilà, c'est quand même il faut pouvoir le faire. Alors quand vous êtes arrivé, vous êtes hébergé où?
Alors, j'ai encore une fois, grâce à la fille de Sciences Po qui était l'année dernière, et grâce au groupe WhatsApp, etc., j'ai trouvé donc une coloc qui est tout près de l'université. Donc, c'est une coloc que d'étudiants internationaux. Et on est 12, enfin, on était 11, et là, on va être 12 au prochain semestre. Et en fait, je pensais pas que j'étais une personne qui pouvait vivre facilement en colocation, mais en fait c'était une très bonne idée, parce que du coup dès que je suis arrivée, en fait il y avait des gens, il y avait deux filles, je suis arrivée donc le soir, il y avait deux filles, j'ai commencé à parler avec elles, ensuite il y a une autre fille qui est arrivée, et puis petit à petit les gens commençaient à arriver, on est allé à la plage ensemble, au restaurant, on a découvert la ville, en fait on était intégrés entre nous en fait.
C'est ce que j'allais vous demander, vous avez été accueillis directement, voilà, de manière spontanée. Alors, sans faire de clichés, les Chiliens sont des gens sympathiques.
Les Chiliens sont extrêmement sympathiques. Je dirais pas que j'ai été accueillie en fait, parce que en fait on s'est un peu tous accueillis entre nous, les internationaux de ma maison. Et ensuite on a rencontré des Chiliens qui nous ont accueillis dans leur famille, dans leurs coutumes. Et oui, donc j'ai rencontré des Chiliens et vraiment très 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 gentils. On est devenus très amis et tout de suite nous ont intégrés donc dans leur famille pour en fait pour le 18 septembre. C'est leur fête nationale. Ils nous ont invités dans leur famille, donc pour vous dire. Donc on est allé chez eux, on a rencontré donc toute leur famille, les coutumes, de comment ça se passe, etc. Et puis même au-delà des amis que je me suis fait, les Chiliens de manière générale sont extrêmement gentils. Vraiment, mais il n'y a aucun jugement. On sent même qu'entre eux, ils sont très à l'aise en cours. Enfin, c'est vraiment un peu contraire à l'image qu'on a des Français. Ils sont vraiment très 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 gentils.
Alors, un petit mot sur votre année universitaire, parce que vous n'êtes quand même pas là non plus pour faire que du tourisme, on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous étudiez en fait à l'université de Concepción?
Donc en fait, j'étudie toujours sciences politiques dans l'université de sciences juridiques et sociales. Et en fait, je peux choisir mes cours comme je veux. Du coup, comme Sciences Po m'autorise en fait à prendre un cours qui n'a rien à voir avec une discipline de Sciences Po, donc j'ai pris un cours d'art, un cours d'espagnol, de langue espagnole, plus deux autres cours donc de Sciences Po. J'ai que quatre cours, donc c'est pas énorme. Et en fait, donc par rapport à l'année scolaire, en fait, je suis arrivée au deuxième semestre. Là, en février, donc en fait, j'ai commencé début août. Donc j'ai dû arriver début août. Donc ça, c'était un peu dur aussi de devoir partir tôt pendant que tout le monde était encore en vacances. Mais du coup, je suis partie début août. Donc de août à décembre, c'est le deuxième semestre. De décembre à mars, c'est les vacances d'été. Donc 3 mois de vacances d'été, c'est bien aussi. Et ensuite, de mars à juillet, c'est le premier semestre. Et les saisons sont aussi inversées. Donc c'est-à-dire que quand je suis arrivée en août, c'était l'hiver. Donc de décembre à mars, c'est les vacances d'été. Et ensuite, là, ça va être la fin de l'été et on va retourner vers l'hiver.
Très bien. Alors, on va faire une petite pause musicale. Je propose toujours à mon invité, à un moment donné de l'interview, de choisir une chanson, une musique, quelque chose qui lui ressemble ou qui lui plaît. Vous pouvez nous donner dire un petit mot avant qu'on l'écoute? Qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire écouter?
Donc, j'ai choisi une musique de Julieta Venegas qui s'appelle Me Boy, donc Je m'en vais. C'est une chanteuse latino-américaine, elle n'est pas chilienne mais elle est latino-américaine, et en fait pour la petite histoire c'est parce que moi quand je suis venue en Amérique latine, je voulais absolument que les gens m'appellent Julieta pour faire un peu plus local, et puis parce que voilà, j'aimais bien un peu changer de nom, et en fait les potes que je me suis fait chiliens, ils m'ont tout de suite dit mais il y a une chanteuse qui s'appelle Julieta Venegas qui est super connue et tout, et ils m'ont commencé à m'appeler Julieta Venegas et tout, c'était la petite blague, et du coup j'ai écouté et en fait j'ai beaucoup aimé, et voilà, je me sens, enfin c'est pas que j'ai approprié cette chanson, mais c'est que il y a une petite histoire par rapport au prénom.
Je comprends, c'est très touchant d'ailleurs. On l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. On vous est toujours sur Radio Escapade et vous êtes toujours dans l'émission des rencontres particulières.
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera, y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero
de ti.
cosa me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Escapade. Nous sommes toujours en compagnie de Juliette. On va élargir un petit peu le champ de la conversation dans un sens par rapport au pays en lui-même et puis au continent latino-américain. Alors, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au Chili ?
Donc, comme je l'ai dit, je pense qu'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est vraiment la gentillesse des Chiliens. Parce que dès le début, je me suis sentie accueillie, à l'aise, vraiment adorable. Après, dans le pays en lui-même, donc comme j'ai dit au début aussi, c'était pas le pays que, c'était pas le premier pays auquel je voulais aller. Mais je pense que, avec le recul, c'est le pays maintenant auquel je voudrais aller, parce qu'en fait, c'est pas forcément très connu le Chili, et c'est pas le pays le plus touristique quand on pense à l'Amérique latine. Mais en fait, c'est très en longueur, donc. Ce qui est étonnant, c'est que on peut passer donc du désert dans le nord, mais le désert le plus total, d'ailleurs le plus aride du monde, à la Patagonie chilienne, qui est donc dans le sud, où on peut voir des glaciers. C'est un peu le bout du monde. En passant par toute la région des lacs, qui est aussi magnifique, les grandes villes connues de Santiago, Valparaíso, etc. Donc la grandeté du paysage et du pays aussi est très impressionnante.
Oui, on rappellera que le Chili, c'est quand même une énorme bande de terre qui longe l'océan Pacifique, de 4000 km, plus de 4000 km² du nord au sud, pour une largeur qui ne dépasse pas les 200 km et qui va du désert d'Atacama, comme vous venez de dire, donc à la terre de feu. Alors, on découvre le Chili avec des amis que vous vous êtes fait là-bas, ou des colocataires, on va dire, de l'université. Mais est-ce que vous avez voyagé sur le continent dans d'autres pays ?
Alors, bien sûr, mes 3 mois de vacances, j'en ai bien profité. Déjà, dès le début, la deuxième semaine que j'étais là, comme je vous l'ai dit, ça s'est fait très vite, les amis, etc. Donc, on est allé dès le premier week-end en Argentine, un week-end à Bariloche. Donc, c'est la Patagonie argentine où on est allé skier. Puis ensuite, j'ai visité le Chili pendant le deuxième semestre. Donc, qui est pour nous le premier. Et ensuite, je suis partie donc, pendant les vacances d'été au Pérou, 10 jours. Donc, je suis retournée en Argentine, à Buenos Aires, 5 jours, puis ensuite à Salta, donc plus au nord. Je suis fait aussi le Salar de Uyuni en Bolivie, qui était absolument magnifique. Et voilà, et c'était pas mal, c'était vraiment très très bien, très joli. Est très différent chaque paysage.
Et vous voyagez comment en fait ? C'est quoi le moyen de transport le plus utilisé ?
À l'intérieur du Chili, c'est le bus qui est extrêmement. En fait, le train n'existe pas en Amérique latine ou presque pas. On se déplace énormément en bus, les bus qui sont extrêmement bien développés, beaucoup mieux qu'en France d'ailleurs. Et ensuite, pour aller d'un pays à l'autre, malheureusement, on prend l'avion, qui est pratique, pas forcément très cher, mais on pourrait s'en passer, je le sais bien.
Oui, il y a des fois, c'est forcément un peu plus... Enfin, si, c'est pas toujours évident, en tout cas, même si, effectivement, le Chili est aussi un pays qui a développé un réseau de transport par bus. Hein, c'est assez particulier, d'ailleurs, dans ce pays par rapport à d'autres. Après tous ces voyages, donc là, vous restez jusqu'au mois de juillet, si j'ai bien compris. Vous avez d'autres projets de voyage au Chili ou à l'étranger?
Alors au Chili, donc j'ai pas encore fait la Patagonie chilienne, mais je vais bientôt la faire et j'ai très hâte. Et ensuite, on a pensé, parce que aussi une destination qui est très que beaucoup de gens ont fait, c'est Rio de Janeiro au Brésil. Et on m'a aussi recommandé, bien évidemment, de faire l'île de Pâques, parce que c'est pas très connu non plus. Moi, je le savais d'ailleurs pas avant d'arriver, mais l'île de Pâques appartient en fait au Chili. Et donc depuis le Chili, donc c'est un budget, mais c'est beaucoup moins cher que de partir d'Europe, et ça serait une opportunité d'y aller maintenant.
Ah oui, ça doit être assez extraordinaire comme paysage. Très souvent, on associe d'ailleurs l'île de Pâques à la Polynésie française, mais effectivement, c'est une erreur, puisque c'est bien une partie, effectivement, du Chili. Écoutez, vous avez encore de belles opportunités. Je voudrais vous demander aussi, vous êtes quand même à plus de 12 ou 13 000 kilomètres, je crois, de la France, hein, ça doit être à peu près ça. Nos amis géographes nous pardonneront les erreurs de quelques kilomètres. Est-ce qu'à un moment donné, depuis votre arrivée donc au mois d'août, vous avez eu des petits moments de nostalgie, des amis, de la famille, de la France en général, des choses comme ça?
Alors bien évidemment qu'au début, en août, c'était un petit peu difficile parce que il faisait pas beau et que c'était quand même un peu stressant, et puis c'était tout nouveau, quoi, et que en fait on voyait nos amis qui étaient en été avec leur famille et leurs amis en France, donc le début a été un petit peu dur, enfin dur, je dirais pas dur, mais voilà, il y a eu des petits moments de nostalgie, et en fait c'est après, quand le semestre a commencé vraiment à débuter, qu'on a bien commencé à sortir, à visiter, etc., finalement, c'est passé, en fait. Et puis, ma famille est aussi venue me visiter pour Noël et le jour de l'an. Donc ça, c'était bien, j'ai pu les revoir, même si après, leur retour a été difficile. Mais ça s'est plutôt bien passé. Par contre, quelque chose qui me manque beaucoup... comme une bonne française que je suis, c'est la baguette, le pain et le fromage qu'il n'y a pas ici. En fait, la nourriture française de manière générale est quelque chose qui me manque beaucoup.
Alors, petite anecdote, je sais par mon petit doigt que vous avez quand même réussi à trouver une de vraies baguettes françaises. Alors, racontez-nous un peu l'anecdote.
Oui, donc à San Pedro de Atacama, donc dans le nord du Chili, dans le fameux désert d'Atacama, il y a une boulangerie française qui s'est implantée là et qui est très connue d'ailleurs. Et donc quand j'y suis allée, je voulais absolument aller à cette boulangerie française où j'ai pris un chocolat chaud avec un pain au chocolat et j'ai commandé une baguette à emporter, et c'était absolument délicieux.
Voilà, alors San Pedro de Atacama, hein, c'est quand même en plein milieu du désert chilien. C'est assez extraordinaire aussi, hein, cette petite boulangerie française qui paraît un petit peu complètement, enfin, qui paraît un petit peu beaucoup décalée. J'ai une avant-dernière question à vous poser. Le Chili s'arrêtera, enfin, en tout cas, votre année d'études au Chili s'arrêtera au mois de juillet prochain. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ?
Alors déjà, j'envisage de ne pas déprimer à Grenoble l'année prochaine, en tout cas j'espère, parce que bien sûr il faut que je finisse ma licence à Sciences Po Grenoble, donc l'année prochaine je retourne à Grenoble, bon en vrai ça devrait aller, puisque j'aime beaucoup cette ville aussi, et ensuite le master, je ne sais pas encore ce que je vais faire plus tard, mais en tout cas je pense que cette année à l'étranger m'aura appris beaucoup de choses, et que peut-être pour le master j'essaierai de partir au moins un an, je ne sais pas encore.
D'accord. Et dernière question, alors est-ce que vous auriez, alors il nous reste très peu de temps, hein, un conseil à donner à nos auditeurs ou nos auditrices qui souhaiteraient aussi, comme vous, partir, vivre ou étudier à l'étranger ?
Alors, je pense que si on veut vraiment partir, en fait, on peut partir. Donc moi, comme j'ai dit, j'ai fait Sciences Po parce qu'il y avait cette année à l'étranger. Mais en fait, il y a énormément d'opportunités quand on rentre à l'université de partir. En fait, on s'en rend pas compte et moi-même, je ne le savais pas. Mais que ça soit donc à la fac, n'importe quelle fac, on peut partir un an à l'étranger. Enfin, peut-être pas n'importe laquelle, mais on peut partir un an à l'étranger. On peut aussi prendre une année sabbatique après le lycée et partir en volontariat aussi à l'étranger. On peut partir au lycée aussi avec des partenariats. En fait, il faut juste savoir se renseigner et ne pas avoir peur de faire le premier pas. En fait, c'est ça le plus dur, c'est de faire le premier pas et de se dire on va y aller. Et une fois qu'on y est, c'est faut se débrouiller. Mais si on veut vraiment y aller, ça vaut vraiment le coup. Et il faut juste voilà, bien se renseigner et être motivé.
Merci beaucoup Juliette pour cette rencontre effectivement très, très particulière. Très bonne continuation à vous.
Merci à vous.
Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre particulière.